Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission Regarde ailleurs donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde. En tant que photographe reporter, j'ai la chance de faire de belles rencontres que j'ai envie de partager avec vous via ce podcast. Et aujourd'hui, dans cette deuxième partie de l'émission, c'est Florian. Florian, d'abord prof de maths, puis bûcheron sylviculteur pour se rapprocher de la nature et travailler en extérieur. Florian Gomet fait partie de ceux qui ont choisi de créer leur réalité. Il se définit lui-même comme un aventurier explorateur du corps humain, qu'il considère comme un territoire fascinant à découvrir. Dans cette deuxième partie de l'émission du podcast Regarde ailleurs, Florian revient sur son incroyable traversée des monts Mackenzie qu'il a parcouru pendant plusieurs jours sans manger. La marche sans fin. Donc est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette aventure, de ce projet ? Tu as marché pendant, je crois, 12 jours ou 14 jours, dans les montagnes, avec du dénivelé positif, avec de la traversée de rivières, sans manger, et avec des températures relativement fraîches, voire froides.
Alors, ce voyage, c'est vraiment une réponse à cette expérience de jeûne spontané que j'ai fait le long de la Loire, parce que là, j'ai vécu une semaine d'état de grâce où j'ai quasiment jeûné sans mettre de volonté là-dedans, sans me contraindre de manière très naturelle. Et c'était la plus belle expérience de jeûne que j'ai pu faire. Et par la suite, donné que j'avais fait une expérience incroyable, j'avais envie de la revivre, de me remettre dans cet état de grâce, j'ai envie de dire. Et donc, je jeûnais quelques jours chez moi, puis au bout de 2-3 jours en général seulement, je me commençais à me sentir mal, j'avais plus envie de bouger, des idées dépressives, etc. Et donc j'ai arrêté un maximum au bout de 4 jours. Et donc j'ai fait ça à de multiples reprises et mes jeûnes ne dépassaient pas 4 jours et je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi j'arrivais pas à jeûner longtemps, pourquoi c'était aussi désagréable alors que la première expérience était si belle. Et donc là, je me suis dit, j'aurais pu en rester là, mais voilà, quand j'ai une idée en tête, je ne la lâche pas, je veux comprendre et aller jusqu'au bout. Et donc je me suis dit, il faudrait que j'aille dans un endroit où j'aurais pas le choix. Parce que je sens ce qui me bloque, c'est les tentations. Et je sentais que si j'avais pas du tout de nourriture autour de moi, pas possibilité de manger, eh bien, j'y penserais pas et ça serait beaucoup plus facile. Donc, j'ai repensé à cette gêne de montagne, les monts Mackenzie au Canada, que j'avais traversé l'hiver. Et je me suis dit, si je retourne là-bas, il n'y a rien à bouffer. Donc, au moins une fois que je serai parti, j'aurais plus le choix que d'aller jusque de l'autre côté, puisque c'est une chaîne de montagnes qui fait 600 km où il n'y a pas de village, aucune possibilité de se ravitailler. Et donc, j'ai mis au point cette expédition qui s'est appelée la marche sans fin. J'ai marché en tout et pour tout 360 km en 14 jours. En traversant 5 ou 6 rivières à la nage, avec des températures entre 0 et 10 degrés pour l'eau, hein. C'est vraiment une eau très froide, et puis des températures vraiment fraîches, voilà, c'était avec même un petit peu de neige sur la fin du voyage. Donc ça a été vraiment une expérience où j'ai poussé les 3 F au maximum, là, froid, faim, fatigue, et je marchais environ 10 à 12 heures par jour, sur ce qu'on appelle le Canol Trail, qui est le trail le plus isolé au monde, le plus difficile au monde aussi, tout simplement parce que il n'y a pas vraiment de chemin, donc c'est presque du hors-piste tout du long, sauf sur la fin quand il y a la partie un petit peu la partie avec des pistes, mais sinon il faut sans cesse repérer où on va, on avance lentement sur des gros cailloux à travers les buissons. Et donc ce voyage-là, ça a été, j'ai vécu à nouveau un jeûne incroyable parce que je n'ai pas pensé à la faim et parce que je ne savais pas qu'il était possible de pouvoir à la fois jeûner, faire autant d'efforts tout en étant soumis au froid. Et je crois que c'est pas du tout, il y a pas du tout de hasard dans la vie. Et si les montagnes là-bas m'ont donné des conditions aussi difficiles, hein, parce que pour un mois d'août, c'était vraiment les pires conditions qu'on puisse imaginer. Je crois que c'était pour que je réalise et pour que le film montre aussi à quel point on n'a vraiment pas besoin de manger pour avoir de l'énergie.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Souvent dans la pratique du jeûne, on conseille d'être inactif ou en tout cas de faire peu d'activité. Et là, tu marches plusieurs heures par jour dans un climat froid avec du dénivelé. Donc voilà, tout le monde n'est pas capable de faire ou de vivre cette expérience.
Effectivement, il y a deux types de jeûne. Il y a le jeûne hygiéniste, qui est un jeûne au repos, et le jeûne actif, comme j'ai fait, où on marche, et assez popularisé maintenant par le jeûne et rando, et puis aussi le jeûne et trek que j'ai mis au point depuis cette expérience. Et donc, pour toutes les personnes qui souffrent d'une maladie, qui ont une baisse de vitalité, évidemment que quand elles vont jeûner, il va falloir qu'elles se reposent, parce que le corps, il a besoin de se nettoyer, de se régénérer. Et donc là, il n'est pas question d'aller marcher des heures et des heures. Voilà, c'est le repos. Par contre, quand on n'a pas de problème de santé, eh bien, on va tirer un bénéfice à jeûner en marchant. Tout simplement parce que ça va favoriser les éliminations et on va mieux vivre le jeûne. Et on n'est pas obligé de faire des heures de marche par jour, hein, mais voilà, mettre le corps en mouvement, ça va permettre de favoriser l'oxygénation, la circulation sanguine, la circulation de la lymphe, permettre d'un point de vue plus global d'aider la circulation des énergies, s'aérer, être au contact de la nature, etc. Donc le jeûne, on va vivre une expérience plus agréable et ça va quand même favoriser les éliminations du corps. Après, moi, ce que j'ai fait, c'était vraiment quelque chose d'extrême, c'est-à-dire au niveau de l'activité physique, que je recommande pas spécialement de faire, hein. Moi, c'était l'expérience que j'avais envie de vivre, je l'ai vécue ponctuellement. Mais ce qui est intéressant pour moi dans cette expérience, et surtout de la porter sur grand écran, c'est vraiment d'apporter une sorte de jeter un pavé dans la mare, j'ai envie de dire. Ça me rappelle une situation du film dans Batman Begins, je crois, où le protagoniste dit « L'humanité a besoin de spectaculaire pour sortir de sa torpeur. » Quelque chose comme ça, voilà. Et donc, et d'ailleurs, c'est vraiment ce que je ressens, hein, à chaque projection de ce film-là, où les personnes sont tellement emmenées loin de leurs croyances au sujet de la santé, de l'alimentation, de l'énergie, etc., que ça provoque véritablement un choc. Voilà. Et les personnes, parfois, ne savent plus quoi en penser parce que, et souvent, on la qualifie de marche extrême ou de, voilà, on me qualifie toujours d'extrême quelque chose. Alors que ce que j'ai fait pendant la marche sans fin, n'importe quel humain qui a une hygiène de vie normale, physiologique, j'ai envie de dire, peut faire ça. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, je me suis entraîné physiquement pour faire ça, mais je me suis pas non plus entraîné que pour ça. Hein. J'ai pas mis toutes mes réserves énergétiques là-dedans non plus. Et donc, n'importe quel humain avant, hein, il y a quelques milliers d'années, aurait été capable de faire ça.
Mais d'où viennent les calories que tu brûles quand tu fais un effort physique et que tu ne manges pas pendant plusieurs jours ?
Eh bien, elles viennent des graisses, tout simplement. Donc, on a en général facilement, je me rappelle plus du calcul exact, hein, mais quelqu'un qui fait par exemple 1m70 pour 70 kg, eh bien il a des réserves énergétiques pour jeûner au moins 3-4 semaines. Voilà, sans aller dans une maigreur extrême où le corps commencerait d'utiliser ses protéines. Hein. Quand je dis 3-4 semaines, c'est de manière totalement sécuritaire.
Et pourtant, t'es pas bien épais.
Je fais 1m65 pour à peu près 57 kilos. Quand je suis parti pour la marche sans fin, j'avais pris plusieurs kilos. J'étais monté à 3 kilos, je crois. J'avais pris quelques réserves. Et donc, voilà, je faisais 1m63 pour 63 kilos. Donc, j'avais des réserves pour jeûner 3-4 semaines. Et j'ai jeûné 2 semaines en tout. Donc, j'avais encore des réserves pour tenir plus longtemps. Mais j'ai arrêté parce que, voilà, j'étais épuisé physiquement et mentalement par l'effort et le froid surtout.
Le froid et l'effort, c'est vrai qu'à partir de quel moment tu as... Non, tu as quand même tenu 14 jours, hein, donc tu as terminé l'itinéraire. Mais à partir de quel moment ça a vraiment été compliqué et quel est aussi l'impact ou la force ou la présence du mental? Est-ce que tu peux me parler de cette notion du mental dans un effort comme celui-là?
Alors, par rapport à ta première question, ça a été difficile à partir du moment où on a été bloqué avec le réalisateur 2 jours dans cette cabane-là, suite à un déluge, quoi, puis des températures qui commençaient d'être négatives. Et ces 2 jours de repos m'ont fait vraiment beaucoup de mal. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport aux jeunes actifs, on se sent mieux. Et on en fait une plus belle expérience. Et là, 2 jours d'arrêt complet, ça m'a quelque part englué. Et j'ai eu beaucoup de mal à repartir, voilà. Et là, ça a vraiment cassé mon rythme. Alors que la journée où j'avais été le plus en forme, c'était la journée juste avant cet arrêt, cette pause dans la cabane. Donc, voilà, c'est vraiment, moi, le manque d'activité qui fait que, pour moi, le jeûne est difficile. Et par rapport à ta deuxième question, par rapport au mental, disons que avant de partir dans ce voyage-là, je fonctionne beaucoup, en règle générale, je fonctionne beaucoup avec mes intuitions. Et quand je ressens une intuition qui est forte, je sais que je peux pas ne faire comme si je l'avais pas entendu. D'une part parce que ce sont vraiment mes intuitions qui me guident dans ma vie et qui me récompensent, qui m'ont toujours récompensé, quoi. Et puis comme la vie en société, de manière traditionnelle, ne me nourrit pas du tout, quand je reçois une sorte de message de mon corps ou d'ailleurs qui me dit d'aller faire telle chose, pour moi, c'est une grâce qui m'est donnée d'avoir quelque chose à faire où je sais que je vais être récompensé, où je sais que je vais prendre du plaisir. Donc, quand j'ai une idée en tête, cette envie d'aller faire cette traversée au niveau du mental, pour moi, c'est un petit peu comme si je n'avais pas le choix. C'est-à-dire que si jamais j'échouais, par exemple, pour moi, l'échec n'est même pas concevable à ces moments-là. Pas parce que c'est quelque chose du mental où je veux absolument réussir quelque chose, c'est parce que justement au départ c'était l'intuition qui est venue. Et je peux accepter d'échouer dans des choses que j'avais décidées mentalement et qui sont le reflet d'un conditionnement. Par contre, échouer dans quelque chose qui a été guidé par mon intuition, ça c'est quelque chose que je ne suis pas capable de concevoir. Parce que c'est quelque chose, une sorte de connexion sacrée. Et qui fait que je perdrais complètement la foi en la vie si jamais mes intuitions se révélaient être fausses ou générer de la souffrance ou de la confusion.
Mais il y a aussi tous ces facteurs extérieurs, donc la météo, les ours aussi, l'isolement. Donc voilà, même si toi tu as cette intuition de te dire « je vais jusqu'au bout », on n'est jamais complètement maître des éléments qui sont autour de nous.
Et ben c'est là où le miracle de la vie agit, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand on est vraiment aligné avec ce que l'on veut, ce que l'on souhaite et ce que l'on désire, déjà, on libère une énergie qui est absolument incroyable, ce qui fait qu'au niveau de l'effort, au niveau du froid, c'est un petit peu comme si quand ces trois pôles, hein, la tête qui veut, le cœur qui désire et les tripes qui... le cœur qui souhaite et les tripes qui désirent sont alignés. C'est un petit peu comme si ça débloquait toutes sortes de choses et l'énergie arrive dans le corps correctement et elle afflue. Et là, on est capable de faire des choses complètement incroyables. Donc déjà, au niveau énergétique, on est aidé quand ces trois centres sont alignés. Et puis, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'univers qui nous accompagne parce que c'était une intuition, parce que ce n'était pas le mental qui avait décidé un truc par rapport à l'ego ou quoi que ce soit. Et donc, quand on suit les messages que l'on reçoit, que notre intuition nous dicte, à ce moment-là, l'univers va se débrouiller pour que tout se passe bien. Voilà. Et ça, j'en ai... Tous mes récits de voyage en sont truffés de synchronicité, de coïncidences complètement improbables. Et plus j'ai voyagé, plus j'en ai vécu des synchronicités comme ça, qui me permettaient non seulement de sauver ma vie, mais aussi d'aller jusqu'au bout de mon voyage, alors qu'il y avait toujours plein d'obstacles qui auraient pu m'arrêter. Et il arrive un moment, on peut plus se dire c'est juste le hasard ou c'est juste la chance. Parce que même d'un point de vue mathématique, de probabilité, hein, je suis bien placé pour savoir ce que c'est avec la formation que j'ai eue, il y a un moment, on ne peut pas dire que c'est plus raisonnable de rester sur cette hypothèse que c'est le hasard qui gère ça. Voilà. Et donc, après, j'ai lu des travaux d'autres physiciens comme Philippe Guillemant, par exemple, qui a écrit dernièrement Le Grand Virage de l'Humanité, où il explique que bah, voilà, la physique est en train d'établir de poser les bases d'une nouvelle science hein, qui dépoussière des dogmes qui étaient cachés et que la science avait avant et qu'elle tire comme des casseroles en ce moment. Et où la notion de conscience fait partie intégrante de la structure de l'univers. Et donc, voilà, quand on pose des intentions, quand on est aligné avec ses choix, eh bien, on est capable d'influencer le cours des événements.
Pachamama, I'm coming home to the place where I belong. Pachamama, I'm coming home to the place where I belong. I wanna be free, so free, like the dolphin in the sea, like the flowers and the bees, like the birds in the trees. I wanna fly high, so high, like an eagle in the sky. And when my time has come, I'm gonna lay down and die. Yes, when my time has come, I'm gonna rise up and fly. Oh, Pachamama, I'm coming home to the place where I belong. Pachamama, I'm coming.
Florian Gomet, je vais revenir sur ton itinéraire de voyageur, donc différentes expéditions, hein, je crois, dans différents continents aussi. Là, on a parlé de la marche, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Est-ce que tu peux me parler d'autres voyages qui t'ont marqué? Je pense plus spécifiquement à celui qui a marqué ta peau, que je vois là, en face de moi.
Alors effectivement, je vais juste revenir sur mon dernier voyage, qui a été pour moi l'aboutissement de tout ce que j'ai fait avant au cours des 12 années d'exploration que j'ai eues. C'est la traversée de l'Europe pieds nus, sans argent, sans équipement, sans papier et en mangeant que des fruits et des légumes crus au rythme de 45 km par jour. Donc ça, c'est ma plus belle expédition qui, pour moi, est vraiment l'aboutissement et vraiment la démonstration des fruits qu'apporte l'hygiénisme. Voilà. C'est pas juste pour avoir moins de rhume ou pour pas faire souffrir les animaux. C'est tellement plus large que ça. C'est une autre dimension. Et voilà, à travers ce film qui va être réalisé par Pierre Barnérias, un film qui va s'appeler L'Empreinte, c'est vraiment un cri de joie, puis aussi un cri, j'ai envie de dire, de réveil pour l'humanité, de montrer voilà, ce que le corps humain est capable de faire sans artifice, sans technologie, simplement avec la puissance du vivant, et puis en utilisant le bon mode d'emploi du corps, parce que voilà, on a complètement oublié quelles étaient les règles du jeu, les règles de bon fonctionnement du corps. Et ce film-là, c'est vraiment l'opportunité de parler, de diffuser voilà, toutes ces lois du vivant qu'on a oubliées. Et,
on va continuer là-dessus. Pourquoi avoir choisi de le faire pieds nus et sans argent?
Alors, le fait de pieds nus, bah, je voulais vraiment partir avec rien. Lors de la traversée des monts Mackenzie, j'en ai déjà parlé l'hiver là. Quand j'ai eu terminé cette traversée, mon intuition est revenue à la charge et m'a dit maintenant tu n'as plus besoin de rien pour voyager, la prochaine fois tu peux partir sans rien. Donc ça c'était une nouvelle intuition, nouveau message, donc voilà dans ma tête je me suis dit bon bah je vais préparer une prochaine expédition où je partirai sans rien. Et puis j'avais découvert en parallèle la marche pieds nus qui m'avait guéri mes problèmes de sciatique. Donc j'avais plus déjà envie naturellement, même avant cette intuition, de remettre des chaussures pour courir. Et puis comme je voulais partir sans rien, bah, des chaussures c'est peut-être pas grand chose, mais c'est quand même quelque chose. Et quelque part, quand on a des chaussures, même si c'est que des sandales, bah, Inconsciemment, on se dit bon bah le corps humain il est pas si bien fait que ça puisque si on n'a pas de chaussures on a mal aux pieds, on peut pas parcourir de longues distances, etc. Et moi mon idée c'était vraiment de réconcilier me réconcilier moi-même et aussi tous ceux que j'allais croiser sur mon chemin avec cette idée que le corps humain il est parfait, voilà. Et si jamais il a des dysfonctionnements, des faiblesses, c'est peut-être parce qu'on l'utilise mal.
Et le sans argent?
Et le sans-argent, c'était pour à la fois aussi pour partir sans rien, puisque voilà, l'argent, ça fait partie de quelque chose, comme les papiers. Et là, c'était pour me prouver à moi-même, et aussi montrer à ceux qui me suivent, qu'on peut vraiment faire confiance en l'humain, et que l'univers, d'un point de vue plus global, quand on est aligné avec ses choix, et qu'on fait quelque chose de juste, va nous apporter tout ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut, où il faut. Et il n'y a rien de plus belle démonstration que de partir avec absolument rien et de réaliser un voyage comme ça sur plusieurs mois où tous les jours, bah, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de contact humain, j'ai besoin qu'on me montre mon chemin quand je suis perdu parce que je n'ai pas de carte, ni de GPS, ni de téléphone avec moi. Et voilà, c'était vraiment pour moi une démonstration que cette loi d'attraction qui fait que si on pense à quelque chose dont on a besoin, eh bien on va l'attirer à soi. Et quelque chose de vrai, parce que sinon, j'aurais pas pu, sur une telle distance et une telle durée, trouver tous les jours ce dont j'avais besoin.
Est-ce que ce serait pas ça, finalement, la liberté, ne rien avoir et se mettre en mouvement ?
Effectivement, ça serait, pour moi, ça recoupe parfaitement la notion de liberté où on n'a plus rien à perdre. Parce que quand on n'a plus rien, dans notre société, c'est plutôt un grand malheur. Donc je dis pas que c'est facile de ne rien avoir, mais là on a entre les mains une force qui est absolument gigantesque parce qu'on n'a plus rien à perdre. Et je pense que je serais pas surpris, voilà, que dans l'avenir les personnes qui vont tout perdre deviennent des acteurs principaux du changement.
Je veux bien que tu me donnes ta définition de la liberté. Qu'est-ce que tu y mettrais comme mot? Qu'est-ce que c'est que pour toi te sentir ou être libre?
Pour moi, la notion de liberté, elle va aller de pair avec la joie. Voilà. C'est-à-dire que si je ne ressens pas de la joie, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui est attaché à de la souffrance ou à des conditionnements. Et la liberté, j'ai envie de reprendre une citation que j'ai lue récemment dans le livre d'Arnaud Desjardins, « La paix toujours présente », qui est « Freedom is perfect slavery ». C'est-à-dire la liberté, c'est le parfait esclavage. Dans le sens où, quand on se sent vraiment guidé, quand on a vraiment conscience des tenants et des aboutissants, eh bien, on sait ce qu'il y a à faire. On n'est plus du tout dans la confusion. Et on sait que voilà, ce qu'il y a à faire, bah, ça ne va pas être autre chose. Et donc, au final, on n'a plus le choix. Parce que c'est ça qui est juste, c'est ça qui va apporter la joie, c'est ça qui va apporter la lumière, la connaissance, la paix. Et donc, c'est aussi Krishnamurti qui disait quelque chose de très similaire. Il disait que quand on croit qu'on a le choix, c'est qu'on est dans la confusion. Donc pour moi, la liberté, c'est ça. Je me sens libre quand je fais quelque chose et je sais que j'ai pas le choix, que je dois le faire et que ça va être source, voilà, de paix, d'amour, de joie, et que ça va être juste pour moi et pour l'univers. Pour moi, c'est ça la liberté.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Avant que tu me parles de tes autres voyages, j'aimerais bien t'interroger sur cette notion du lien de connexion à l'environnement, parce que je ressens ça aussi très fort en toi, cette envie de te rapprocher de nos écosystèmes, de les comprendre, de les traverser, mais aussi de les sentir en toi, autour de toi. Il y a peut-être aussi le côté sensoriel, le fait de marcher pieds nus, c'est aussi ça, c'est se relier d'une manière plus vraie ou plus authentique à cet environnement naturel. Auquel l'homme a plutôt tendance à s'éloigner que de s'en rapprocher.
Effectivement, je me sens très proche de la nature depuis enfant. Je suis quelqu'un qui est solitaire et c'est à travers la proximité à la nature, surtout des arbres, que j'ai trouvé une forme de consolation qui m'a aidé à traverser les périodes difficiles. Et plus généralement, c'est vraiment au contact de la nature que je me ressource. Et dans mes voyages, c'était l'élément principal que je recherchais, c'est-à-dire je recherchais la nature la plus vierge possible, que ce soit dans les zones montagneuses ou dans les zones nordiques où il y a très peu d'humains. Et pour moi, aller passer du temps dans ces espaces-là, on n'a pas besoin d'y aller pour un but ou pour y faire quelque chose de particulier. Simplement le fait de rentrer en contact et de passer du temps, d'être dans l'observation, la contemplation, ça va nous reconnecter à quelque chose de plus grand que nous. Et ça va faire un travail à l'intérieur de nous sans qu'on sache vraiment ce qui se passe. Mais on ressort, de toute manière, on sera différent. Voilà. Et plus on passe du temps, plus cette transformation a lieu. Et après, ça se joue aussi sur différents niveaux. On sait maintenant que dans notre ADN, on va retrouver l'ADN de certaines plantes, d'animaux, etc. Quand on est au cours de la grossesse aussi, on voit, on passe par tout un tas d'étapes d'animaux différents. Donc dans notre ADN, on est connecté à toutes ces plantes, à tous ces animaux. Et puis, voilà, pour moi, tout ce qui est vivant est un esprit incarné. Et c'est pas parce qu'il ne communique pas avec des mots, parce qu'il ne se déplace pas de la même manière, que le monde végétal n'a pas son intelligence et sa sensibilité et des moyens de communication avec nous. Et quand on parle de l'intelligence des végétaux notamment, j'ai souvent l'impression qu'on parle presque de ça avec un peu de condescendance, comme si oui, on veut bien leur accorder un peu d'intelligence, mais dans le fond, l'humain, ça reste quand même le top du top. Et moi, j'ai vraiment pas du tout ce ressenti, parce que quand on observe les arbres, bah en fait, ils n'ont pas de neurones, mais ils savent toute leur énergie, en fait, ils la mettent pour aller chercher la lumière, voilà. Et puis dans leurs racines, ils vont chercher en profondeur pour s'ancrer, pour trouver leur nourriture. Ils vivent en symbiose avec les champignons et ils sont capables de communiquer entre eux, de se reproduire, de vivre à travers de longues périodes, de traverser toutes sortes d'aléas climatiques. Et pour moi, l'arbre, c'est vraiment un des symboles d'une grande intelligence, quoi. Toute cette énergie qui est mise pour aller chercher la lumière, voilà. Et je crois que la sagesse pour l'humain, ça serait ou l'éveil complet, ça serait un humain qui utiliserait aussi toutes ses ressources pour aller chercher la lumière. Donc au niveau symbolique, toutes ces vibrations positives, l'amour, la paix, la joie. Et donc quand je vois des arbres, moi je vois des grands sages. Et quand on regarde un petit peu aussi notre histoire de celle de l'humanité. On fait partie des primates, la famille des grands singes, et donc on a presque toujours vécu en milieu forestier. On est étroitement lié à la forêt, c'est vraiment l'environnement où on se sent le mieux. Et quand on regarde aussi maintenant avec toutes ces connaissances qu'on a en agroforesterie, et c'est vraiment mis en avant par la permaculture, la permaforêt, les arbres permettent de retenir les nutriments du sol grâce à leurs racines. Plus les forêts vieillissent et plus elles enrichissent leur sol, c'est-à-dire qu'elles ne se contentent pas de prendre et puis de donner, elles donnent plus qu'elles prennent. Ensuite, les arbres sont capables de retenir l'eau, de rafraîchir le climat, de filtrer l'air, favorisent la formation des nuages et donc des pluies, parce que sans arbres, il n'y aurait pas de pluie à l'intérieur des terres, à plus de 100 km des côtes. Et les arbres favorisent la biodiversité. Quand on mange comme moi 100% vivant, c'est-à-dire végétal et cru, bah, les arbres ils sont capables de nous nourrir complètement. Donc pour moi, les arbres, quelque part, c'est un petit peu Dieu, parce qu'ils peuvent tout faire sur Terre. Et notre avenir en tant qu'espèce humaine est étroitement lié au sort que l'on va réserver aux arbres. Pour moi, la solution, les gens se demandent qu'est-ce qu'on peut faire, la situation est si compliquée, tout paraît s'écrouler de tous bords. Mais les solutions, elles sont très simples. Hein. Si jamais on veut s'en sortir, c'est très simple. Hein. Planter des arbres, changer d'hygiène de vie, changer notre rapport avec nous-mêmes et avec les autres. C'est que des choses de base, très simples, qui ne demandent pas de technologie particulière. Alors après, je ne dis pas que la technologie ne peut pas nous aider, mais en tout cas, les solutions, elles, sont très, très basiques à apporter. C'est simplement prendre conscience que la nature, que le vivant a un pouvoir absolument illimité et que c'est un véritable miracle. Tant que l'humanité ne considérera pas que cette vie est un miracle qui se déroule en permanence sous ses yeux, elle cherchera des solutions alambiquées, technologiques, et se trompera de chemin.
Alors qu'il suffirait un retour à l'essentiel.
Voilà, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec l'univers qui nous envoie beaucoup de perturbations politiques, climatiques et autres, tout simplement pour... comme un électrochoc pour nous guider vers l'essentiel. Et je trouve que... Moi, je ne vois pas du tout cette situation comme quelque chose de triste ou de malheureux, mais comme une formidable opportunité de réveil pour se reconnecter.
Et j'aimais bien cette citation aussi de Krishnamurti, qui disait se sentir... c'est pas un signe de bonne santé mentale que de s'adapter à un système ou à une société malade. C'est un petit peu ce qu'on observe aujourd'hui, cette notion qu'a l'homme de s'adapter à tout, au meilleur, mais aussi au pire.
Exactement. Ouais. Moi, quand je vois quelqu'un qui est malade, qui est qualifié de fou, ou même quelqu'un qui finit en prison, je me demande si finalement ces personnes-là ne sont pas plus saines que quelqu'un qui va se conformer à la société au point de finalement trouver son compte dedans. Moi, j'aurais pu très bien mal tourner, entre guillemets, si je n'avais pas voyagé, parce que j'étais profondément insatisfait de la vie dans la société. Et je me mets à la place de tous ces fous, de tous ces criminels, parce que je crois qu'ils ont quelque part... qui sont quelque part le témoignage, le reflet, le symptôme que notre société est malade, et c'est profondément être vivant qu'être malade dans une société qui l'est.
Florian, merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. L'émission que vous venez d'entendre s'appelle « Regarde ailleurs ». Ce podcast donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde dans le cadre de mon activité de photographe voyageur. Je pars de l'idée qu'une personne, le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres, et j'aime pouvoir récupérer tous ces témoignages souvent très inspirants. Belle journée à tous.